Chapitre 2. Ginevra tressaillit. Quoique l'inconnu fût beau, son aspect n'avait point ému la jeune fille. La douce pitié que les femmes trouvent dans leur cœur pour les misères qui n'ont rien d'ignoble avait étouffé chez Ginevra toute autre affection. Mais entendre un cri de vengeance, rencontrer dans ce proscrit une âme italienne, du dévouement pour Napoléon, de la générosité à la Corse, c'en était trop pour elle. Elle contempla donc l'officier avec une émotion respectueuse qui lui agita fortement le cœur. Pour la première fois, un homme lui faisait éprouver un sentiment si vif. Comme toutes les femmes, elle se plut à mettre l'âme de l'inconnu en harmonie avec la beauté distinguée de ses traits, avec les heureuses proportions de sa taille qu'elle admirait en artiste. Menée par le hasard de la curiosité à la pitié, de la pitié à un intérêt puissant, elle arrivait de cet intérêt à des sensations si profondes qu'elle crut dangereux de rester là plus longtemps. « À demain, » dit-elle en laissant à l'officier le plus doux de ses sourires pour consolation. En voyant ce sourire qui jetait comme un nouveau jour sur la figure de Ginevra, l'inconnu oublia tout pendant un instant. « Demain, » répondit-il avec tristesse, « demain, l'abbé Doyère. » Ginevra se retourna, mit un doigt sur ses lèvres et le regarda comme si elle lui disait « Calmez-vous, soyez prudent. » Alors le jeune homme s'écria « Oh Dio, que non vorrei vivere dopo aver la veduta !»« Oh Dieu, qui ne voudrait vivre après l'avoir vue !» L'accent particulier avec lequel il prononça cette phrase fit tressaillir Ginevra. « Vous êtes corse ? » s'écria-t-elle en revenant à lui, le cœur palpitant d'aise. « Oui, je suis né en Corse, » répondit-il. Mais j'étais amené très jeune à Gênes, et aussitôt que j'eus atteint l'âge auquel on entre au service militaire, je me suis engagé. » La beauté de l'inconnu, l'attrait surnaturel que lui prêtaient ses opinions bonapartistes, sa blessure, son malheur, son danger même, tout disparut aux yeux de Ginevra, ou plutôt, tout se fondit dans un seul sentiment nouveau, délicieux. Ce proscrit était un enfant de la Corse. Il en parlait le langage chéri. La jeune fille resta pendant un moment immobile, retenue par une sensation magique. Elle avait en effet sous les yeux un tableau vivant auquel tous les sentiments humains réunis et le hasard donnaient de vives couleurs. Sur l'invitation de Servin, l'officier s'était assis sur un divan. Le peintre avait dénoué l'écharpe qui retenait le bras de son hôte et s'occupait à en défaire l'appareil afin de panser la blessure. Ginevra frissonna en voyant la longue et large plaie que la lame d'un sabre avait faite sur l'avant-bras du jeune homme et laissa échapper une plainte. L'inconnu leva la tête vers elle et se mit à sourire. Il y avait quelque chose de touchant et qui allait à l'âme dans l'attention avec laquelle Servin enlevait la charpie et tâtait les chairs meurtries. Tandis que la figure du blessé, quoique pâle et maladive, exprimait à l'aspect de la jeune fille plus de plaisir que de souffrance. Une artiste devait admirer involontairement cette opposition de sentiments et les contrastes que produisaient la blancheur des linges, la nudité du bras avec l'uniforme bleu et rouge de l'officier. En ce moment, une obscurité douce enveloppait l'atelier. Mais un dernier rayon de soleil vint éclairer la place où se trouvait le proscrit, en sorte que sa noble et blanche figure, ses cheveux noirs, ses vêtements, tout fut inondé par le jour. Cet effet si simple, la superstition italienne le prit pour un heureux présage. L'inconnu ressemblait ainsi à un céleste messager qui lui faisait entendre le langage de la patrie et la mettait sous le charme des souvenirs de son enfance, pendant que dans son cœur naissait un sentiment aussi frais, aussi pur que son premier âge d'innocence. Pendant un moment bien court, elle demeura songeuse et comme plongée dans une pensée infinie. Puis elle rougit de laisser voir sa préoccupation, échangea un doux et rapide regard avec le proscrit et s'enfuit en le voyant toujours. Le lendemain n'était pas un jour de leçon. Ginevra vint à l'atelier et le prisonnier put rester auprès de sa compatriote. Servin, qui avait une esquisse à terminer, permit au reclus d'y demeurer en servant de mentors aux deux jeunes gens qui s'entretinrent souvent en Corse. Le pauvre soldat raconta ses souffrances pendant la déroute de Moscou, car il s'était trouvé à l'âge de 19 ans au passage de la Bérézina, seul de son régiment, après avoir perdu dans ses camarades les seuls hommes qui puissent s'intéresser à un orphelin. Il peignit en traits de feu le grand désastre de Waterloo. Sa voix fut une musique pour l'italienne. Élevée à la Corse, Ginevra était en quelque sorte la fille de la nature. Elle ignorait le mensonge et se livrait sans détour à ses impressions. Elle les avouait, ou plutôt les laissait deviner, sans le manège de la petite et calculatrice coquetterie des jeunes filles de Paris. Pendant cette journée, elle resta plus d'une fois, sa palette d'une main, son pinceau de l'autre, sans que le pinceau s'abreuvât les couleurs de la palette. Les yeux attachés sur l'officier et la bouche légèrement entrouverte, elle écoutait, se tenant toujours prête à donner un coup de pinceau qu'elle ne donnait jamais. Elle ne s'étonnait pas de trouver tant de douceur dans les yeux du jeune homme, car elle sentait les siens devenir doux malgré sa volonté de les tenir sévères ou calmes. Puis elle peignait ensuite avec une attention particulière, et pendant des heures entières, sans lever la tête, parce qu'il était là, près d'elle, la regardant travailler. La première fois qu'il vint s'asseoir pour la contempler en silence, elle lui dit d'un son de voix ému et après une longue pause: cela vous amuse donc de voir peindre ? Ce jour-là, elle apprit qu'il se nommait Luigi. Avant de se séparer, ils convinrent que, les jours d'atelier, s'il arrivait quelque événement politique important, Ginevra l'en instruirait en chantant à voix basse certains airs italiens. Le lendemain, Mademoiselle Thirion apprit sous le secret à toutes ses compagnes que Ginevra di Piombo était aimée d'un jeune homme qui venait, pendant les heures consacrées aux leçons, s'établir dans le cabinet noir de l'atelier. « Vous qui prenez son parti, dit-elle à Mademoiselle Roguin, examinez-la bien et vous verrez à quoi elle passera son temps. » Ginevra fut donc observée avec une attention diabolique. On écouta ses chansons, on épia ses regards. Au moment où elle ne croyait être vue de personne, une douzaine d'yeux étaient incessamment arrêtés sur elle. Ainsi prévenues, ces jeunes filles interprétèrent dans leur sens vrai les agitations qui passèrent sur la brillante figure de l'italienne, et ses gestes et l'accent particulier de ses fredonnements, et l'air attentif avec lequel elle écoutait des sons indistincts qu'elle seule entendait à travers la cloison. Au bout d'une huitaine de jours, une seule des 15 élèves de Servin s'était refusée à voir Louis par la crevasse de la cloison. Cette jeune fille était Laure, la jolie personne pauvre et assidue, qui, par un instinct de faiblesse, aimait véritablement la belle Corse et la défendait encore. Mademoiselle Roguin voulut faire rester Laure sur l'escalier à l'heure du départ, afin de lui prouver l'intimité de Ginevra et du beau jeune homme en les surprenant ensemble. Laure refusa de descendre à un espionnage que la curiosité ne justifiait pas et devint l'objet d'une réprobation universelle. Bientôt, la fille de l'huissier du cabinet du roi trouva qu'il n'était pas convenable pour elle de venir à l'atelier d'un peintre dont les opinions avaient une teinte de patriotisme ou de bonapartisme, ce qui à cette époque semblait une seule et même chose. Elle ne revint donc plus chez Servin, qui refusa poliment d'aller chez elle. Si Amélie oublia Ginevra, le mal qu'elle avait semé porta ses fruits. Insensiblement, par hasard, par caquetage ou par pruderie, toutes les autres jeunes personnes instruisirent leur mère de l'étrange aventure qui se passait à l'atelier. Un jour, Mathilde Roguin ne vint pas. La leçon suivante, ce fut une autre jeune fille. Enfin, trois ou quatre demoiselles, qui étaient restées les dernières, ne revinrent plus. Ginevra et Mademoiselle Lours, sa petite amie, furent pendant deux ou trois jours les seules habitantes de l'atelier désert. L'Italienne ne s'apercevait point de l'abandon dans lequel elle se trouvait et ne recherchait même pas la cause de l'absence de ses compagnes. Ayant inventé depuis peu les moyens de correspondre mystérieusement avec Louis, elle vivait à l'atelier comme dans une délicieuse retraite, seule au milieu d'un monde, ne pensant qu'à l'officier et aux dangers qui le menaçaient. Cette jeune fille, quoique sincèrement admiratrice des nobles caractères qui ne veulent pas trahir leur foi politique, pressait Louis de se soumettre promptement à l'autorité royale afin de le garder en France. Louis ne voulait pas sortir de sa cachette. Si les passions ne naissent et ne grandissent que sous l'influence d'événements extraordinaires et romanesques, on peut dire que jamais tant de circonstances ne concourent à lier deux êtres par un même sentiment. L'amitié de Ginevra pour Louis et de Louis pour elle fit plus de progrès en un mois qu'une amitié du monde n'en fait en 10 ans dans un salon. L'adversité n'est-elle pas la pierre de touche des caractères ? Ginevra put donc apprécier facilement Louis, le connaître, et ils ressentirent bientôt une estime réciproque l'un pour l'autre. Plus âgée que Louis, Ginevra trouvait une douceur extrême à être courtisée par un jeune homme déjà si grand, si éprouvé par le sort, et qui joignait à l'expérience d'un homme toutes les grâces de l'adolescence. De son côté, Louis ressentit un indicible plaisir à se laisser protéger en apparence par une jeune fille de 25 ans. Il y avait dans ce sentiment un certain orgueil inexplicable. Peut-être était-ce une preuve d'amour. L'union de la douceur et de la fierté, de la force et de la faiblesse avait en Ginevra d'irrésistibles attraits, et Louis était entièrement subjugué par elle. Ils s'aimaient si profondément déjà qu'ils n'avaient eu besoin ni de se le nier, ni de se le dire. Un jour, vers le soir, Ginevra entendit le signal convenu. Louis frappait avec une épingle sur la boiserie de manière à ne pas produire plus de bruit qu'une araignée qui attache son fil et demandait ainsi à sortir de sa retraite. L'Italienne jeta un coup d'œil dans l'atelier, ne vit pas la petite Laure et répondit au signal. Louis ouvrit la porte, aperçut l'écolière et rentra précipitamment. Étonnée, Ginevra regarde autour d'elle, trouve Laure et lui dit en allant à son chevalet « Mais vous restez bien tard, ma chère. Cette tête me paraît pourtant achevée, il n'y a plus qu'un reflet à indiquer sur le haut de cette tresse de cheveux. » « Vous seriez bien bonne, dit Laure d'une voix émue, si vous vouliez me corriger cette copie, je pourrais conserver quelque chose de vous. » « Je veux bien, répondit Ginevra, sûre de pouvoir ainsi la congédier. « Je croyais, reprit-elle en donnant de légers coups de pinceau, que vous aviez beaucoup de chemin à faire de chez vous à l'atelier. « Oh, Ginevra, je vais m'en aller pour toujours !» s'écria la jeune fille d'un air triste. L'Italienne ne fut pas autant affectée de ces paroles pleines de mélancolie qu'elle l'aurait été un mois auparavant. « Vous quittez, monsieur Servin ? » demanda-t-elle. « Mais vous ne vous apercevez donc pas, Ginevra, que depuis quelque temps il n'y a plus ici que vous et moi. C'est vrai, répondit Ginevra, frappée tout à coup comme par un souvenir. Ces demoiselles seraient-elles malades? Se marieraient-elles ou leurs pères seraient-ils tous de service au château? Mais toutes ont quitté M. Servin, répondit Laure. Et pourquoi? Mais à cause de vous, Ginevra.
De moi?
Répéta la fille corse en se levant, le front menaçant, l'air fier et les yeux étincelants. Oh, mais ne vous fâchez pas, ma bonne Ginevra, s'écria douloureusement Laure. Mais ma mère aussi veut que je quitte l'atelier. Toutes ces demoiselles ont dit que vous aviez une intrigue, que M. Servin se prêtait à ce qu'un jeune homme qui vous aime demeurât dans le cabinet noir. Je n'ai jamais cru ces calomnies, je n'en ai rien dit à ma mère. Et hier au soir, Mme Roguin a rencontré ma mère dans un bal et lui a demandé si elle m'envoyait toujours ici. Sur la réponse affirmative de ma mère, elle lui a répété les mensonges de ces demoiselles. Maman m'a bien grondé et elle a prétendu que je devais savoir tout cela, que j'avais manqué à la confiance qui règne entre une mère et sa fille en ne lui en parlant pas. Ma chère Ginevra, moi qui vous prenais pour modèle, combien je suis fâchée de ne plus pouvoir rester votre compagne. Nous nous retrouverons dans la vie. Les jeunes filles se marient, dit Ginevra. « Quand elles sont riches, » répondit Laure. « Viens me voir, mon père de la fortune. » « Ginevra, » reprit Laure attendrie, « Madame Roguin et ma mère doivent venir demain chez M. Servin pour lui faire des reproches, à moins qu'il en soit prévenu. » La foudre tombée à deux pas de Ginevra l'aurait moins étonnée que cette révélation. « Mais qu'est-ce que cela leur faisait ? » dit-elle naïvement. « Mais tout le monde trouve que cela fort mal. Maman dit que c'est contraire aux mœurs. Et vous, Laure, qu'en pensez-vous ? » La jeune fille regarda Ginevra. Leurs pensées se confondirent. Laure ne retint plus ses larmes, se jeta au cou de son amie et l'embrassa. En ce moment, Servin arriva. « Mademoiselle Ginevra, » dit-il avec enthousiasme, « j'ai fini mon tableau. On le vernit. Mais qu'avez-vous donc ? Il paraît que toutes ces demoiselles prennent des vacances ou sont en la campagne. » Laure sécha ses larmes, salua Servin et se retira. « L'atelier est désert depuis plusieurs jours, » fit Ginevra, « et ces demoiselles ne reviendront plus. »« Bah ! « Oh, ne riez pas, reprit Ginevra, écoutez-moi. Je suis la cause involontaire de la perte de votre réputation. » L'artiste se mit à sourire et dit en interrompant son écolière, « Ma réputation ! Mais dans quelques jours, mon tableau sera exposé. » « Il ne s'agit pas de votre talent, dit l'italienne, mais de votre moralité. » Ces demoiselles ont publié que Louis était renfermé ici et que vous vous prêtiez à notre amour. Il y a du vrai là-dedans, mademoiselle, répondit le professeur. Les mères de ces demoiselles sont des bégueules, reprit-il. Si elles étaient venues me trouver, tout ça serait expliqué. Mais que je prenne du souci de tout cela, oh, la vie est trop courte. Et le peintre fit craquer ses doigts par-dessus sa tête. Louis, qui avait entendu une partie de cette conversation, accourut aussitôt. « Mais vous allez perdre toutes vos écolières, s'écria-t-il, et je vous aurai ruiné. » L'artiste prit la main de Louis et celle de Ginevra, les joignit. « Vous vous marierez, mes enfants ? » leur demanda-t-il avec une touchante bonhomie. Ils baissèrent tous deux les yeux et leur silence fut le premier aveu qu'ils se firent. « Eh bien, » reprit Servin, « vous serez heureux, n'est-ce pas ? Y a-t-il quelque chose qui puisse payer le bonheur de deux êtres tels que vous ? « Je suis riche, dit Ginevra, et vous me permettrez de vous indemniser. »«
Indemniser ! » s'écria Servin. « Quand on saura que j'ai été victime des calomnies de quelque sorte et que je cachais un proscrit, mais tous les libéraux de Paris m'enverront leur fille, je serai peut-être alors votre débiteur. »
Louis serrait la main de son protecteur sans pouvoir prononcer une parole. Mais enfin il lui dit d'une voix attendrie, « C'est donc à vous que je devrais toute ma félicité.
« Soyez heureux, je vous unis, » dit le peintre avec une onction comique et en imposant les mains sur la tête des deux amants.
Cette plaisanterie d'artiste mit fin à leur attendrissement. Ils se regardèrent tout droit en riant. L'italienne serra la main de Louis par une violente étreinte et avec une simplicité d'action digne des mœurs de sa patrie.
« Ah, ça, mes chers enfants, » reprit Servin, « vous croyez que tout ça va maintenant à merveille, oh bien, vous vous trompez. »
Les deux amants l'examinèrent avec étonnement.
« Rassurez-vous, je suis le seul que votre espièglerie embarrasse. Madame Servin est un peu collet monté, et je ne sais en vérité pas comment nous nous arrangeons avec elle.
« Dieu, j'oubliais !» s'écria Ginevra. « Demain, Madame Roguin et la mère de Laure doivent venir vous. »
« J'entends, » dit le peintre en interrompant.
« Mais vous pouvez vous justifier, » reprit la jeune fille, en laissant échapper un geste de tête plein d'orgueil. « Monsieur Louis, » dit-elle en se tournant vers lui et le regardant avec finesse, « ne doit plus avoir d'antipathie pour le gouvernement royal. »«
Eh bien, » reprit-elle après l'avoir vu souriant,
« demain matin, j'enverrai une pétition à l'un des personnages les plus influents du ministère de la guerre, à un homme qui ne peut rien refuser à la fille du baron de Piombo. Nous obtiendrons un pardon tacite pour le commandant Louis, car ils ne voudront pas vous reconnaître le grade de colonel. Et vous pourrez, ajouta-t-elle en s'adressant à Servin, confondre les mères de mes charitables campagnes, en leur disant la vérité.
Vous êtes un ange, s'écria Servin.
Pendant que cette scène se passait à l'atelier, le père et la mère de Ginevra s'impatientaient de ne pas la voir revenir.
Il est 6 heures et Ginevra n'est pas encore de retour, s'écria Bartholoméo.
Mais elle n'est jamais rentrée si tard, répondit la femme de Piombo. Les deux vieillards se regardèrent avec toutes les marques d'une anxiété peu ordinaire. Trop agité pour rester en place, Bartholoméo se leva et fit 2 fois le tour de son salon à célestement pour un homme de 77 ans. Grâce à sa constitution robuste, il avait subi peu de changements depuis le jour de son arrivée à Paris, et malgré sa haute taille, il se tenait encore droit. Ses cheveux, devenus blancs et rares, laissaient à découvert un crâne large et protubérant qui donnait une haute idée de son caractère et de sa fermeté. Sa figure, marquée de rides profondes, avait pris un très grand développement et gardait ce teint pâle qui inspire la vénération. La fougue des passions régnait encore dans le feu surnaturel de ses yeux, dont les sourcils n'avaient pas entièrement blanchi, et qui conservaient leur terrible mobilité. L'aspect de cette tête était sévère, mais on voyait que Bartholoméo avait le droit d'être ainsi. Sa bonté et sa douceur n'étaient guère connues que de sa femme et de sa fille. Dans ses fonctions ou devant un étranger, il ne déposait jamais la majesté que le temps imprimait à sa personne, et l'habitude de froncer ses gros sourcils, de contracter les rides de son visage, de donner à son regard une fixité napoléonienne, rendait son abord glacial. Pendant le cours de sa vie politique, il avait été si généralement craint qu'il passait pour peu sociable. Mais il n'est pas difficile d'expliquer les causes de cette réputation. La vie, les mœurs et la fidélité de Piombo faisaient la censure de la plupart des courtisans.
malgré les missions délicates confiées à sa discrétion et qui pour tout autre eussent été lucratives, il ne possédait pas plus d'une trentaine de mille francs de livres de rente en inscription sur le grand livre. Si l'on vient à songer au bon marché des rentes sous l'Empire, à la libéralité de Napoléon envers ceux de ses fidèles serviteurs qui savaient parler, il est facile de voir que le baron de Piombo était un homme d'une probité sévère. Il ne devait son plumage de baron qu'à la nécessité dans laquelle Napoléon s'était trouvé de lui donner un titre en l'envoyant dans une cour étrangère. Bartholoméo avait toujours professé une haine implacable pour les traîtres dont s'entoura Napoléon en croyant les conquérir à force de victoire. Ce fut lui qui, dit-on, fit trois pas vers la porte du cabinet de l'empereur après lui avoir donné le conseil de se débarrasser de trois hommes en France la veille du jour où il partit pour sa célèbre et admirable campagne de 1814. Depuis le second retour des Bourbons, Bartholoméo ne portait plus la décoration de la Légion d'honneur. Jamais homme n'offrit une plus belle image de ces vieux républicains, amis incorruptibles de l'Empire, qui restaient comme les survivants et les vivants débris des deux gouvernements les plus énergiques que le monde ait connus. Si le baron de Piombo déplaisait à quelques courtisans, il avait les Daru, les Drouot, les Carnot pour amis. Aussi, quant au reste des hommes politiques depuis Waterloo, s'en souciait-il autant que des bouffées de fumée qu'il tirait de son cigare. Bartholoméo di Piombo avait acquis, moyennant la somme assez modique, que Madame, mère de l'empereur, lui avait donnée de ses propriétés en Corse, l'ancien hôtel de Port-Andouer, dans lequel il ne fit aucun changement. Presque toujours logé aux frais du gouvernement, il n'habitait cette maison que depuis la catastrophe de Fontainebleau. Suivant l'habitude des gens simples et de haute vertu, le baron et sa femme ne donnaient rien au faste extérieur. Leurs meubles provenaient de l'ancien ameublement de l'hôtel. Les grands appartements hauts d'étage, sombres et nus de cette demeure, les larges glaces encadrées dans de vieilles bordures dorées presque noires, et ce mobilier du temps de Louis XIV étaient en rapport avec Bartholoméo et sa femme, personnages dignes de l'Antiquité. Sous l'Empire et pendant les Cent Jours, en exerçant des fonctions largement rétribuées, le vieux Corse avait eu un grand train de maison, plutôt dans le but de faire honneur à sa place que dans le dessein de briller. Sa vie et celle de sa femme étaient si frugales, si tranquilles, que leur modeste fortune suffisait à leurs besoins. Pour eux, leur fille Ginevra valait toutes les richesses du monde. Aussi, quand, en mai 1814, le baron de Piombo quitta sa place, congédia ses gens et ferma la porte de son écurie, Ginevra, simple et sans faste comme ses parents, n'eut-elle aucun regret. À l'exemple des grandes âmes, elle mettait son luxe dans la force des sentiments, comme elle plaçait sa félicité dans la solitude et le travail. Puis, ces trois êtres s'aimaient trop pour que les dehors de l'existence eussent quelque prise à leurs yeux. Souvent, et surtout depuis la seconde et effroyable chute de Napoléon, Bartholoméo et sa femme passaient des soirées délicieuses à entendre Ginevra toucher du piano ou chanter. Il y avait pour eux un immense secret de plaisir dans la présence, dans la moindre parole de leur fille. Ils la suivaient des yeux avec une tendre inquiétude. Ils entendaient son pas dans la cour, quelque léger qu'il pût être. Semblables à des amants, ils savaient rester des heures entières, silencieux, tous trois, entendant mieux ainsi que par des paroles l'éloquence de leurs âmes. Ce sentiment profond, la vie même des deux vieillards, animait toutes leurs pensées. Ce n'étaient pas trois existences, mais une seule qui, semblable à la flamme d'un foyer, se divisait en trois langues de feu. Si quelquefois le souvenir des bienfaits et du malheur de Napoléon, si la politique du moment en triomphait de la constante sollicitude des deux vieillards, ils pouvaient en parler sans rompre la communauté de leurs pensées. Ginevra ne partageait-elle pas leur passion politique? Quoi de plus naturel que l'ardeur avec laquelle ils se réfugiaient dans le cœur de leur unique enfant? Jusqu'alors, les occupations d'une vie publique avaient absorbé l'énergie du baron de Piombo. Mais en quittant ses emplois, le Corse eut besoin de rejeter son énergie dans le dernier sentiment qui lui resta. Puis, à part des liens qui unissent un père et une mère à leur fille, il y avait peut-être, à l'insu de ces trois âmes despotiques, une puissante raison au fanatisme de leur passion réciproque. Ils s'aimaient sans partage, le cœur tout entier de Ginevra appartenait à son père, comme à elle, celui de Piombo. Enfin, s'il est vrai que nous nous attachions les uns aux autres, plus par nos défauts que par nos qualités, Ginevra répondait merveilleusement bien à toutes les passions de son père. De là procédait la seule imperfection de cette triple vie. Ginevra était entière dans ses volontés, vindicative, emportée comme Bartolomeo l'avait été pendant sa jeunesse. Le Corse se complut à développer ses sentiments sauvages dans le cœur de sa fille, absolument comme un lion apprend à ses lionceaux à fondre sur leur proie. Mais cet apprentissage de vengeance, ne pouvant en quelque sorte se faire qu'au logis paternel, Ginevra ne pardonnait rien à son père et il fallait qu'il lui cédât. Piombo ne voyait que des enfantillages dans ses querelles factices, mais l'enfant y contracta l'habitude de dominer ses parents. Au milieu de ces tempêtes que Bartolomeo aimait à exciter, oui, un mot de tendresse, un regard suffisait pour apaiser leurs âmes courroucées, et ils n'étaient jamais si près d'un baiser que quand ils se menaçaient. Cependant, depuis 5 années environ, Ginevra, devenue plus sage que son père, évitait constamment ces sortes de scènes. Sa fidélité, son dévouement, l'amour qui triomphait dans toutes ses pensées et son admirable bon sens avaient fait justice de ses colères. Mais il n'en était pas moins résulté un bien grand mal. Ginevra vivait avec son père et sa mère sur le pied d'une égalité toujours funeste. Pour achever de faire connaître tous les changements survenus chez ces trois personnages depuis leur arrivée à Paris, Piombo et sa femme, gens sans instruction, avaient laissé Ginevra étudier à sa fantaisie. Au gré de ses caprices de jeune fille, elle avait tout appris et tout quitté, reprenant et laissant chaque pensée tour à tour, jusqu'à ce que la peinture fût devenue sa passion dominante. Elle eût été parfaite si sa mère avait été capable de diriger ses études, de l'éclairer et de mettre en harmonie les dons de la nature. Ses défauts provenaient de la funeste éducation que le vieux Corse avait pris plaisir à lui donner. Après avoir pendant longtemps fait crier sous ses pas les feuilles du parquet, le vieillard sonna. Un domestique parut. « Allez au-devant de Mademoiselle Ginevra, » dit-il. « J'ai toujours regretté de ne plus avoir de voiture pour elle, » observa la baronne. « Elle n'en a pas voulu, » répondit Piombo en regardant sa femme, qui, accoutumée depuis 40 ans à son rôle d'obéissance, baissa les yeux. Déjà septuagénaire, grande, sèche, pâle et ridée, la baronne ressemblait parfaitement à ces vieilles femmes que Schnetz met dans les scènes italiennes de ses tableaux de genre. Elle restait si habituellement silencieuse qu'on l'eût prise pour une nouvelle Madame Shandy. Mais un mot, un regard, un geste annonçaient que ses sentiments avaient gardé la vigueur et la fraîcheur de la jeunesse. Sa toilette, dépouillée de coquetterie, manquait souvent de goût. Elle demeurait ordinairement passive, plongée dans une bergère, comme une sultane, validée, attendant ou admirant sa Ginevra, son orgueil et sa vie. La beauté, la toilette, la grâce de sa fille semblaient être devenues siennes. Tout pour elle était bien quand Ginevra se trouvait heureuse. Ses cheveux avaient blanchi et quelques mèches se voyaient au-dessus de son front blanc et ridé ou le long de ses joues creuses. « Voilà 15 jours environ, dit-elle, que Ginevra rentre un peu plus tard. » Bonjour, dira pas assez vite, cria l'impatient vieillard, qui croisa les basques de son habit bleu, saisit son chapeau, l'enfonça sur sa tête, prit sa canne et partit. Tu n'iras pas loin, lui cria sa femme. En effet, la porte cochère s'était ouverte et fermée, et la vieille mère entendait le bas de Ginevra dans la cour. Bartolomeo reparut tout à coup, portant en triomphe sa fille, qui se débattait dans ses bras. « La voici, la Ginevra, la Ginevrettina, la Ginevrina, la Ginevrola, la Ginevretta, la Ginevra bella. Mon père, vous me faites mal. » Aussitôt, Ginevra fut posée à terre avec une sorte de respect. Elle agita la tête par un gracieux mouvement pour rassurer sa mère qui déjà s'effrayait et pour lui dire que c'était une ruse. Le visage ferme et pâle de la baronne reprit alors ses couleurs et une espèce de gaieté. Piombo se frotta les mains avec une force extrême, symptôme le plus certain de sa joie. Il avait pris cette habitude à la cour en voyant Napoléon se mettre en colère contre ceux de ses généraux ou de ses ministres qui le servaient mal ou qui avaient commis quelque faute. Les muscles de sa figure une fois détendus, la moindre ride de son front exprimait la bienveillance. Ces deux vieillards offraient en ce moment une image exacte de ces plantes souffrantes auxquelles un peu d'eau rend la vie après d'une longue sécheresse. « À table !» s'écria le baron en présentant sa large main à Ginevra, qu'il nomma « Signora Piombellina », autre symptôme de gaieté auquel sa fille répondit par un sourire. « Ah ça !» dit Piombo en sortant de table. « Sais-tu que ta mère m'a fait observer que depuis un mois tu restes beaucoup plus longtemps que de coutume à ton atelier. Il paraît que la peinture passe avant nous. Oh mon père !» « Ginevra nous prépare sans doute quelques surprises, » dit la mère. « Tu m'apporterais un tableau de toi ?» s'écria le Corse en frappant dans ses mains. « Oui, oui, je suis très occupé à l'atelier, » répondit-elle. « Mais qu'as-tu donc, Ginevra ? Tu pâlis, » lui dit sa mère. « Non !» s'écria la jeune fille en laissant échapper un geste de résolution. « Non, non, il ne sera pas dit que Ginevra Piombo aura menti une fois dans sa vie. » Et en entendant cette singulière exclamation, Piombo et sa femme regardèrent leur fille d'un air étonné. « Oui, j'aime un jeune homme, » ajouta-t-elle d'une voix émue. Puis, sans oser regarder ses parents, elle abaissa ses longues, larges paupières comme pour voiler le feu de ses yeux. « Est-ce un prince ?» lui demanda ironiquement son père en prenant un son de voix qui fit trembler la mère et la fille. « Non, mon père, » répondit-elle avec modestie, « c'est un jeune homme sans fortune. Il est donc bien beau ?» Il est malheureux. Que fait-il? Compagnon de l'abbé Doyère, il était proscrit, sans asile, alors Servin l'a caché et...
Servin est un honnête garçon qui s'est bien comporté, s'écria Piombo.
Mais vous faites mal, vous, ma fille, d'aimer un autre homme que votre père.
Il ne dépend pas de moi de ne pas aimer, répondit doucement Ginevra.
Oh, je me flattais, reprit son père, que ma Ginevra me serait fidèle jusqu'à ma mort, que mes soins et ceux de sa mère seraient les seuls qu'elle aurait reçus, que notre tendresse aurait pas rencontré dans son âme de tendresse rivale et que... Ne vous ai-je reproché votre fanatisme pour Napoléon, dit Ginevra. N'avez-vous aimé que moi? N'avez-vous pas été des mois entiers en ambassade? N'ai-je pas supporté courageusement vos absences? Ah, la vie a des nécessités qu'il faut savoir subir. Ginevra, non, vous ne m'aimez pas pour moi, et vos reproches trahissent un insupportable égoïsme.
Tu accuses l'amour de ton père? S'écria Piombo, les yeux flamboyants.
Mon père, je ne vous accuserai jamais, répondit Ginevra avec plus de douceur que sa mère tremblante n'en attendait. Vous avez raison dans votre égoïsme, comme j'ai raison dans mon amour. Le ciel m'est témoin que jamais fille n'a mieux rempli ses devoirs auprès de ses parents. Je n'ai jamais vu que bonheur et amour là où d'autres voient souvent des obligations. Voici 15 ans que je ne me suis pas écarté de dessous votre aile protectrice, et ce fut un bien doux plaisir pour moi que de charmer vos jours. Mais serais-je donc ingrate en me livrant au charme d'aimer, en désirant un époux qui me protège après vous? Ah, tu comptes avec ton père, Ginevra, reprit le vieillard d'un ton sinistre. Il se fit une pause effrayante pendant laquelle personne n'osa parler. Enfin Bartholoméo rompit le silence en s'écriant d'une voix déchirante. « Bon, reste, reste avec nous, reste auprès de ton vieux père. Je ne saurais te voir aimant un homme, Ginevra. Tu n'attendras pas longtemps ta liberté. » Mais mon père, songez donc que nous vous quitterons pas, que nous serons deux à vous aimer, que vous connaîtrez l'homme au soin duquel vous me laisserez. Vous serez doublement chéri par moi et par lui qui est encore moi et par moi qui suis tout lui-même. Oh, Ginevra, Ginevra, s'écria le Corse en serrant les poings. Mais pourquoi ne t'es-tu pas marié quand Napoléon m'avait accoutumé à cette idée et qui te présentait des ducs et des comtes? Il m'aimait par ordre, dit la jeune fille. D'ailleurs, je ne voulais pas vous quitter et il m'aurait emmené avec eux. Tu veux pas nous laisser seuls, dit Piombo, mais te marier, c'est nous isoler. Bon, je te connais, ma fille, tu ne nous aimeras plus. Elisa, ajouta-t-il en regardant sa femme qui restait immobile et comme stupide. « Elisa, nous n'avons plus de fille, elle veut se marier !» Le vieillard s'assit après avoir levé les mains en l'air comme pour invoquer Dieu. Puis il resta courbé comme accablé sous sa peine. Ginevra vit l'agitation de son père et la modération de sa colère lui brisa le cœur. Elle s'attendait à une crise, à des fureurs. Elle n'avait pas armé son arme contre la douceur paternelle. Mon père, dit-elle d'une voix touchante, non, vous ne serez jamais abandonné par votre Ginevra. M'aimez-la aussi un peu pour elle. Si vous saviez comme il m'aime, ah, ce ne serait pas lui qui me ferait de la peine.
Déjà des comparaisons, s'écria Piombo avec un accent terrible. « Non, non, je ne puis supporter cette idée, » reprit-il. « S'il t'aimait comme tu mérites de l'être, il me tuerait, et s'il ne t'aimait pas, je le poignarderais. »
Les mains de Piombo tremblaient, ses lèvres tremblaient, son corps tremblait, et ses yeux lançaient les éclairs. Ginevra, seule, pouvait soutenir son regard, car alors elle allumait ses yeux et la fille était digne du père.
« Bon, t'aimer, mais quel est l'homme digne de cette vie ?» reprit-il. « T'aimer comme un père, n'est-ce pas déjà vivre dans le paradis, et qui seront jamais dignes d'être ton époux ?»«
Lui, dit Ginevra, lui, de qui je me sens indigne. » Lui, répéta machinalement Piombo, mais qui lui?
Mais celui que j'aime.
Est-ce qu'il peut te connaître encore assez pour t'adorer?
Mais mon père, reprit Ginevra, éprouvant un mouvement d'impatience, quand il ne m'aimerait pas, du moment où je l'aime.
Tu l'aimes donc? S'écria Piombo.
Ginevra inclina doucement la tête.
Tu l'aimes alors plus que nous?
Mais ces deux sentiments ne peuvent se comparer, répondit-elle.
L'un est plus fort que l'autre, reprit Piombo.
Je crois que oui, dit Ginevra.
Tu ne l'épouseras pas,
cria le Corse, dont la voix fit résonner les vitres du salon. Je l'épouserai, répliqua tranquillement Ginevra.
Mon Dieu, s'écria la mère, comment finira cette querelle? Santa Virginia, mettez-vous entre deux.
Le baron, qui se promenait à grands pas, vint s'asseoir. Une sévérité glacée rembrunissait son visage. Il regarda fixement sa fille et lui dit d'une voix douce et affaiblie.
Eh bien, Ginevra, non, non, tu ne l'épouseras pas.
Oh, ne me dis pas oui ce soir, laisse-moi croire le contraire.
Peux-tu voir ton père à genoux et à ses cheveux blancs, prosterné devant toi? Je vais te supplier.
Mais Ginevra Piombo n'a pas été habituée à promettre et à ne pas tenir, répondit-elle. Je suis votre fille.
« Elle a raison, dit la baronne, nous sommes mises au monde pour nous marier. »«
Ainsi vous l'encouragez dans sa désobéissance, dit le baron à sa femme, qui frappée de ce mot se changea en statue. »«
Mais ce n'est pas désobéir que de se refuser à un ordre injuste, répondit Ginevra. »«
Il ne peut pas être injuste quand il émane de la bouche de votre père, ma fille. »«
Pourquoi me jugez-vous ? » La répugnance que j'éprouve n'est-elle pas un conseil d'en haut? Je vous préserve peut-être d'un malheur.
Oh, le malheur serait qu'il ne m'aima pas.
Oh, toujours lui.
Oui, toujours, reprit-elle. Il est ma vie, mon bien, ma pensée. Même en vous obéissant, il serait toujours dans mon cœur. Me défendre de l'épouser, n'est-ce pas vous faire haïr?
« Il ne nous aime plus !» s'écria Piombo.
« Oh !» dit Ginevra en agitant la tête.
« Eh bien, oublie-le, reste-nous fidèles. Après nous, ouf, tu comprends. »«
Mon père, voulez-vous me faire désirer votre mort ?» s'écria Ginevra.
« Je vivrai plus longtemps que toi. Les enfants qui n'honorent pas leurs parents meurent promptement. » s'écria son père, parvenu au dernier degré de l'exaspération.
« Mais raison de plus pour me marier promptement et être heureuse, » dit-elle. Ce sang-froid, cette puissance de raisonnement, achevèrent de troubler Piombo. Le sang lui porta violemment à la tête, son visage devint pourpre. Ginevra frissonna, elle s'élança comme un oiseau sur les genoux de son père, lui passa ses bras autour du cou, lui caressa les cheveux et s'écria tout attendrie. « Oh oui, mais que je meure la première! Je ne te survivrai pas, mon père, mon bon père !»«
Oh, ma Ginevra, ma folle, ma Ginevrina !» répondit Piombo, dont toute la colère se fondit à cette caresse comme une glace sous les rayons du soleil.
« Il était temps que vous finissiez, » dit la baronne d'une voix émue. « Pauvre mère,
ma Ginevretta, ma Ginevra bella !»
Et le père jouait avec sa fille comme avec un enfant de 6 ans. Il s'amusait à défaire les tresses ondoyantes de ses cheveux, à la faire sauter. Il y avait de la folie dans l'expression de sa tendresse. Bientôt, sa fille le gronda en l'embrassant et tenta d'obtenir, en présentant l'entrée de son louis au logis. Mais tout en plaisantant aussi, le père refusait. Elle bouda, revint, bouda encore. Puis à la fin de la soirée, elle se trouva contente d'avoir gravé dans le cœur de son père et son amour pour Louis et l'idée d'un mariage prochain. Le lendemain, elle ne parla plus de son amour. Elle alla plus tard à l'atelier. Elle en revint de bonne heure. Elle devint plus caressante pour son père qu'elle ne l'avait jamais été et se montra pleine de reconnaissance, comme pour le remercier du consentement qu'il semblait donner à son mariage par son silence. Le soir, elle faisait longtemps de la musique, et souvent elle s'écriait « Oh, il faudrait une voix d'homme pour ce nocturne !» Elle était italienne, c'est tout dire. Au bout de 8 jours, sa mère lui fit un signe, elle vint, puis à l'oreille et à voix basse, « J'ai amené ton père à le recevoir !» lui dit-elle. « Oh, ma mère, vous me faites bien heureuse !»